Bonjour. À la suite de ce que Charlie a présenté la semaine dernière, Charlie a prêché sur l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, les premiers versets. Je vais prendre la section suivante, c'est-à-dire la lettre de Paul aux chrétiens de la ville de Philippe, au chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Nous allons méditer ce texte. Avant de le méditer, peut-être qu'il faut rappeler ou en tout cas vous apprendre dans quel contexte Paul écrit cette lettre. Au moment où Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Philippe, il est en prison. Il est en prison et il est donc dans l'impossibilité de faire son travail d'apôtre. Je vous rappelle que être apôtre, ça consiste à être envoyé par Jésus, à parcourir pas mal de chemins dans tout le bassin méditerranéen pour annoncer l'évangile, pour construire des églises. Et voilà, un apôtre qui est en prison, c'est un apôtre qui ne peut plus se déplacer, c'est comme un lion en cage, c'est comme un avion cloué au sol. On peut largement imaginez l'énervement de Paul de ne pas pouvoir accomplir sa tâche. On peut largement imaginer sa frustration. Il est entre quatre murs. Comment l'évangile va-t-il avancer? Lui qui est l'apôtre des païens, des non-juifs, des gens qui n'ont aucun moyen de découvrir Jésus tout seul. Il faut qu'on leur annonce. Et Paul, lui, est en prison. Je ne sais pas comment est-ce que vous gérez la frustration quand vous êtes empêché de faire ce que vous aimez faire, ce que vous devez faire, ce qui vous paraît juste de faire. Mais là, nous allons lire le témoignage de Paul quand il est dans ce cas-là. Voyons comment Paul prend cette chose très frustrante. Donc Philippiens 1, à partir du verset 12. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire la prison, a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe, après tout. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ. Et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ. Et c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ. Je termine ici la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Merci, notre Père, de nous avoir donné l'exemple de grands hommes comme l'apôtre Paul, qui nous montre comment nous devons vivre, comment nous devons réagir, qui nous montre ce que nous devons croire. Seigneur, nous voulons te demander, au moment de méditer ce que nous dit cet apôtre, de nous donner un esprit de sagesse, de discernement, pour que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous ce matin, ce que tu nous attends de nous cette semaine, cette année. Aide-nous à voir ce que nous pouvons imiter chez Paul et les choses qui sont peut-être ses spécificités à lui. Père, que ce moment de méditation soit tout à ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. C'est assez bizarre parce que Paul est en prison et il est content. C'est ce qu'il dit, je suis content. Il a trois réactions bizarres. Il est content à propos de trois choses qui normalement ne donnent pas lieu à une grande satisfaction. Malgré sa captivité, il est content. Malgré le fait que des gens prêchent uniquement pour lui faire concurrence, il profite qu'il est en prison pour aller prêcher à sa place et se faire de la pub personnellement. Malgré cela, Paul est content. Malgré le fait qu'il serait content de mourir assez vite, oui, et il pense que être auprès de Jésus, c'est ce qu'il y a de bien meilleur dans la vie. Donc en fait, finalement, il aimerait soit que Jésus revienne très très vite, soit mourir le plus vite possible pour être avec Jésus. Paul est tout de même content de rester sur terre et de continuer encore à vivre. Trois réactions bizarres, trois raisons d'être content qui sont vraiment assez farfelues pour nous. Mais si on cherche un peu la raison de ces trois réactions, eh bien, on s'aperçoit que c'est toujours la même chose. La raison de ces trois réactions bizarres, c'est la progression de l'Évangile. Paul est content parce que l'Évangile continue de progresser. Paul est content parce que sa captivité a rendu ses frères et sœurs encore plus hardis pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, malgré sa captivité, la bonne nouvelle court toujours et toujours de plus en plus annoncée par les frères et sœurs qui, eux, ne sont pas en prison. Mais en plus, ça a encouragé d'autres prédicateurs à faire mieux que lui. Il y a de la concurrence, mais c'est de la concurrence finalement qui aboutit à une meilleure prédication de l'Évangile. Paul aimerait rejoindre le Seigneur, mais il est prêt à consentir à rester sur terre pour revoir les Philippiens et continuer à les encourager à progresser dans la connaissance de l'Évangile. Les chrétiens de Philippe étaient une église, c'était des chrétiens qui avaient un grand zèle, une grande piété, mais qui avaient sûrement une piété un petit peu encore fragile, une église pas très très vieille, pas très affermie, avec des gens plutôt pauvres, pas très très éduqués. C'était pas des chrétiens de Rome ou d'Éphèse qui avaient pas mal d'argent. C'était des gens qui étaient assez pauvres, assez simples, et ils avaient sûrement encore bien besoin d'enseignement. Paul était parti de chez eux sans avoir peut-être délivré tout l'enseignement qu'il devait délivrer. Et donc, il est content.
Il est content parce qu'il se dit, bah, si je ne meurs pas et si je suis en captivité, bah, ça veut dire que je vais sûrement ressortir, je vais sûrement revenir vous voir et je vais sûrement, encore une fois, vous encourager à suivre le Seigneur Jésus. Donc, Paul, on va dire, s'oublie lui-même, oublie sa frustration pour le bien-être de son prochain, pour la progression de l'Évangile. Paul est prêt à mettre en sourdine, d'une part, son confort personnel. La prison n'est pas le meilleur lieu pour vivre. D'autre part, ses ambitions. Il serait sûrement plus efficace dehors. D'autre part encore, sa vision de la justice. C'est pas normal que des gens annoncent l'Évangile pour des motifs aussi mauvais. Et enfin, il est prêt à mettre en sourdine son envie de revoir Jésus. Parce que je vous rappelle que Paul a connu pas mal de galères. C'est pas la première fois qu'il est en prison. Il s'est fait souvent taper dessus. Il a souvent eu des sévices physiques. Il a vu des églises s'engouffrer dans des mauvaises voies, vers des mauvais enseignements. On peut imaginer qu'il est un petit peu là, Paul, et qu'il a envie finalement que sa course se termine et de revoir Jésus, d'être restauré et d'être dans la félicité éternelle. Mais il est prêt à mettre tout ça de côté pour continuer à servir le Seigneur Jésus. Sa mission, sa passion, c'est de glorifier le Seigneur Jésus en toutes choses, et notamment en contribuant par tous les moyens à faire connaître l'Évangile, à faire connaître le salut de Jésus-Christ. Bel exemple d'abnégation. Paul a l'air obsédé par l'avancement du royaume de Dieu. C'est sa seule priorité. Mais j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute. Il ne fait qu'imiter son maître. Jésus, et c'est Paul qui va le dire au début du chapitre 2 de la même lettre aux Philippiens, Jésus a quitté son trône de clarté. Jésus qui, depuis l'éternité, est Dieu, a décidé de quitter la place qui était la sienne. Il est venu sur terre pour servir, pour faire la volonté de son Père et non la sienne. Il est mort injustement pour des pécheurs. Malgré la fatigue, malgré la faim, malgré la présence continuelle de gens qui ne comprenaient rien à ce qu'il disait ou à ce qu'il faisait, malgré la souffrance indicible de la croix, Jésus n'a pas failli à sa mission. Et c'est grâce à son obéissance, à son sens des priorités, que nous sommes ici ce matin avec l'assurance du salut. Nous sommes au bénéfice de l'obéissance de Jésus. Un jour, dans l'évangile de Luc, les disciples de Jésus lui disent, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne nous suit pas. Il ne fait pas partie du groupe des disciples. » Alors on lui a dit d'arrêter, quoi. Et Jésus leur a répondu, « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous et pour nous. » Jésus a aussi eu ce réflexe qu'a l'apôtre Paul en prison face à des prédicateurs qui n'ont pas l'air d'être très très catholiques, ou enfin, je ne sais pas si on pouvait dire catholique à l'époque, qui n'ont pas l'air d'être de faire partie du bon groupe, on va dire. Jésus dit à ses disciples, franchement, ces gens qui ne font pas partie de notre groupe, s'ils disent pas du mal de moi, mais s'ils font les choses en mon nom, et si ça aboutit à quelque chose de positif, faut pas les en empêcher. Paul fait exactement pareil que Jésus, en disant, ces prédicateurs qui veulent me faire concurrence, eh bien, voilà, ils ont l'air de faire les choses pour de mauvais motifs. Mais finalement, ils font des bonnes choses, ils annoncent Jésus. Donc, finalement, c'est plutôt pas mal. Quand la parole de Dieu est proclamée dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, quand la parole de Dieu porte du fruit, cela rend le Seigneur Jésus heureux. Et cela rend normalement ses disciples heureux. La priorité des priorités, c'est de toujours mieux le connaître et le faire connaître. C'est ça, la vie, la vraie. Alors, bien sûr, nous devons être des imitateurs de Jésus. Nous devons être des imitateurs de l'apôtre Paul, en voyant plus loin que le bout de notre nez. Nous ne sommes pas apôtres, donc notre mission, ce n'est pas d'aller par monts et par vaux annoncer l'Évangile. Notre mission, ce n'est pas forcément de construire plein d'églises. Nous prenons beaucoup moins de risques que Paul, et nous ne risquons pas la prison. Nous ne sommes pas en prison, mais nous avons quand même une mission que le Seigneur Jésus nous a donnée, qui est de faire de toutes les nations des disciples. Donc nous ne sommes pas exemptés d'annonce de l'Évangile. Nous devons parler de l'Évangile. Et aussi, je pense que nous ne sommes pas tout à fait libres. Nous ne sommes pas en prison comme l'apôtre Paul, mais nous ne sommes pas tout à fait libres quand même. Et je vais m'expliquer. Nous sommes prisonniers de trois choses. Premièrement, nous sommes prisonniers de ce que j'appellerais l'esprit charentaise. Les chaussures, pas les habitants des Charentes. Nous préférons très souvent être tranquilles plutôt que de nous mettre en danger en parlant de notre foi. Nous ne risquons pas la prison, mais nous sommes horrifiés à l'idée d'avoir honte, à l'idée d'être moqués si nous osons dire à des gens qui ne croient pas que nous pensons qu'un type, il y a 2000 ans, est mort, ressuscité, et que maintenant, finalement, il est encore vivant, et qu'il fait encore des disciples, dont nous. Nous avons tellement peur que les personnes autour de nous rigolent devant notre ami imaginaire. Pourtant, Dieu étant souverain, il peut se servir de nous pour répandre sa parole, quelle que soit notre situation. Il paraîtrait même qu'il est capable de faire des miracles. Le problème, c'est que nous votons souvent pour le confort. Finalement, le diable n'a plus besoin de prison pour essayer de faire taire les disciples de Jésus, parce qu'il a trouvé bien mieux: le matérialisme, l'hédonisme, la recherche du plaisir. Engourdi par notre recherche du bien-être, il n'y a pas trop de risques pour que nous provoquions un réveil. Nous avons tellement besoin de nous recentrer sur l'essentiel. Nous avons tellement besoin de prendre des risques et de voir Dieu accomplir des miracles. Dans l'association où je travaille, les groupes bibliques universitaires, justement, notre but, c'est d'encourager les étudiants à vivre leur foi de manière cohérente et à parler de leur foi à leurs amis. Et souvent, la réaction est la même. Je peux pas. Je peux pas. Mes amis sont des intellectuels. Sous-entendu, pas moi, c'est assez bizarre. Mes amis sont des intellectuels, ils ne croiront jamais, ils voudront jamais m'écouter. Ça, c'est pour l'annonce de l'Évangile, mais même pour la vie de piété, c'est « Non, mais tu comprends, mes problèmes sont trop profonds. J'ai ce problème-là depuis tellement longtemps. Je peux pas prendre le risque d'essayer de faire sans, parce que moi, ça fait 20 ans que je vis avec ça, et je peux pas rompre comme ça de manière brutale. Je peux pas. » Et à chaque fois, ce que nous disons à ces étudiants, c'est « Prends le risque. » Va, essaye, et regarde, mais finalement, mets le Seigneur à l'épreuve. Parle de ta foi à tes amis, tu vas voir ce qui va se passer, finalement. Regarde si Dieu ne va pas agir. T'as tel problème, t'as tel péché qui te pourrit la vie, t'as tel trait de caractère qui est très très embêtant pour toi. Ben, prends le risque de combattre cela et laisse Dieu faire, prie, laisse Dieu agir. Si tu confesses que Dieu est capable de faire des miracles, ben c'est bien gentil, mais expérimente-le. Et j'ai plusieurs exemples d'étudiants qui ont pris le risque et qui ont été carrément émerveillés de ce que Dieu a fait. De ce que Dieu a fait, parce que, je le répète, Dieu est d'accord, et vraiment à 100% d'accord pour que nous annoncions sa parole, et il est 100% d'accord pour que nous combattions le péché qui est en nous. Il n'y a pas besoin de lui demander son avis s'il est d'accord. Il est d'accord. Après, c'est une question de moyens. C'est lui qui choisit les moyens. Mais nous, de notre côté, prenons des risques et laissons-le agir. Je glisse vers la deuxième chose qui nous empêche d'obéir à Jésus. La deuxième, finalement, prison virtuelle, la prison sans barreaux que Dieu met autour de nous, c'est le manque de persévérance. À côté de notre manque de courage, nous sommes aussi capables de perdre notre calme pour des choses tout à fait secondaires. Nous pouvons être frustrés devant des choses qui échappent totalement à notre contrôle. Finalement, dans la position de l'apôtre Paul, nous nous énerverions sur le fait que nous sommes en prison et nous gratterions peut-être patiemment le mur, tellement nous serions énervés. Nous dirions, mais c'est pas normal, c'est pas juste, mais qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi est-ce que Dieu m'enferme ici alors que je pourrais être si efficace ailleurs? Nous pourrions passer nos journées à ronger notre frein. Et souvent, nous faisons ça avec des choses bien moins essentielles que quand ça concerne l'annonce de l'Évangile. Je pense que nous perdrions certainement moins de temps si nous nous en remettions au Seigneur de l'univers. Si nous mettions plutôt notre énergie à lui obéir, à vivre l'Évangile. Nous nous laissons tellement souvent arrêté par des détails stupides. J'ai des exemples. Voilà, par exemple, imaginez, vous avez un prédicateur qui annonce l'Évangile, et puis voilà, je sais pas, vous laissez arrêter par un détail de sa tenue vestimentaire ou par la manière dont il parle. Et vous, en fait, finalement, vous n'écoutez plus le message, mais vous restez focalisé sur des détails visuels ou des détails auditifs. Ou encore, vous vous dites, ouais, bon, j'aimerais bien servir Dieu, mais je pense que voilà, l'Église n'est pas encore assez bonne pour que je puisse rentrer à l'intérieur de cette organisation si imparfaite. Ou j'aimerais bien amener des amis à l'Église, mais je pense que les frères et sœurs de l'Église, franchement, il ferait mieux de faire un peu de progrès parce que franchement, ils font peur un peu à tout le monde. Donc, je vais amener mes amis un peu plus tard. Ou encore, les conditions dans mon cercle d'amis sont pas encore toutes réunies pour que je puisse dire que je suis chrétien. Je cherche les conditions parfaites. Les conditions ne seront jamais parfaites. Les conditions ne sont jamais idéales. Jamais. Pour obéir à l'appel de Dieu. Sauf que Dieu nous commande de faire avancer son royaume, quelles que soient les conditions. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est « le mieux est l'ennemi du bien ». Parfois, à vouloir rechercher la perfection, à vouloir rechercher le mieux, on évite de faire tout simplement le bien. Et du coup, nous ne faisons rien du tout. Parce que nous recherchons un mieux qui ne viendra jamais. Alors persévérons, obéissons, faisons avec ce que nous avons et Dieu s'occupera du reste. Et enfin, la troisième chose qui nous empêche d'obéir, c'est une mauvaise réaction, une réaction finalement qui manque de foi devant les événements qui sont contraires, devant les vagues, les courants contraires. Quand nous avons des soucis, quand nous avons des problèmes, qu'ils soient gros ou petits, nous avons deux solutions. Les lamentations, le repli sur soi, ou bien voir dans ces événements contraires une occasion de grandir dans notre foi et de témoigner de notre espérance à ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais même aussi notre espérance à nos frères et à nos sœurs qui ont besoin d'être encouragés souvent. Nous sommes regardés. Dans la même lettre, Paul dit aux chrétiens de Philippe qu'ils sont des flambeaux qui éclairent ce monde de ténèbres. Les chrétiens sont regardés, sont appelés à être des témoins. Je pense que les épreuves que nous traversons sont d'excellents moyens de glorifier le Seigneur. Souvent, nous pensons, nous, que ce sont les conditions idéales qui sont d'excellents moyens de glorifier le Seigneur. Mais moi, je pense au contraire que c'est dans l'épreuve, que c'est quand les choses vont mal que nous pouvons glorifier le Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est exactement là que nous faisons la différence avec le commun des mortels. C'est exactement dans ces conditions-là que le Seigneur peut se glorifier en nous. Et là, je vous ressors le verset que Paul a entendu de la bouche même du Seigneur Jésus. « Ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » C'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Nous, en tant que disciples de Jésus, nous regardons en haut et non en bas. Regarder en haut, c'est ne pas se laisser influencer par ce qui nous arrive. Alors bien sûr, nous ne sommes pas appelés à être complètement insensibles, mais en tout cas à regarder en priorité vers la gloire, vers ce que Jésus est pour nous. Et quand des personnes qui ne connaissent pas Jésus voient cette réaction, une réaction à la fois sensible à ce qui se passe en bas, mais avec des yeux rivés vers le haut, avec une réelle espérance, personne ne peut rester insensible face à cela. Alors, je vous encourage vraiment à vous resituer par rapport aux priorités que le Seigneur Jésus met devant nous. Et la question qu'on pourrait se poser, hein, une question qui est pas mal pour réfléchir pendant toute cette semaine, c'est qu'est-ce que le Seigneur Jésus attend de vous pour faire avancer son royaume ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? D'accord, vous n'êtes pas apôtre, mais vous avez quand même une mission. Que pouvez-vous faire pour Jésus ? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour Jésus, pour faire progresser le royaume de Dieu ? C'était l'obsession de Paul, et je pense que ça doit être notre obsession à nous aussi, à notre échelle bien sûr, mais ça doit être notre obsession à nous aussi. Que pouvez-vous faire pour Jésus cette semaine ? C'est sûrement une question à laquelle vous ne pouvez peut-être pas répondre maintenant, mais je pense qu'en réfléchissant et surtout en priant pour que Dieu vous le dise, je pense que vous pouvez, au bout d'une année, semaine après semaine, eh bien faire des miracles en obéissant à l'appel de Jésus. Vraiment, que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.